Bon, alors attention, on est prêt, moteur, ramène la 24 deuxième.
Ça s'appelle le miroir de l'âme.
Bon, alors j'ai changé le titre, hein, parce que le miroir de l'âme, c'était pas possible.
Oula.
Clap Cinéma, une émission proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Oui, on a envie de voir, c'est sûr.
Bonjour, bonjour à tous. Eh bien, Clap Cinéma, et pour une fois, je serai seule au micro, car Jean-Sylvain, le directeur du Sémaphore, a eu un imprévu. Voilà. Donc, de toute façon, le nouveau programme qui sort aujourd'hui, le 21 décembre, il y a beaucoup de films qui étaient déjà dans la précédente émission ou dans le précédent programme. Donc, je vous conseille vivement, comme tout est en podcast sur notre site Radio Alliance Plus, d'aller écouter le précédent Clap Cinéma. Vous y retrouverez les commentaires de certains films ou d'autres films comme Juré numéro 2, Trois Amis, Une part manquante, ces deux derniers films, on avait passé les bandes annonces, Le Royaume, Anora, Flo le chat qui n'avait plus peur de l'eau, film d'animation, L'affaire Nevenka, Monsieur Aznavour, Quand vient l'automne, donc largement, comme d'habitude, de la diversité et des goûts pour tous. Alors dans ce nouveau programme, le 21 novembre, il y a aussi des nouveautés, je ne les citerai pas toutes, mais je citerai Au boulot, Kafka le dernier été, qui sera en écho avec le festival des Vogue au mois de décembre. La Vallée des Fous, qui a une très bonne critique, il sort le 21, de Xavier Beauvois, avec un Jean-Paul Rouve extraordinaire, et donc bien d'autres films. Alors j'ai choisi donc pour cette émission, au lieu d'avoir un dialogue, de vous faire trois gros plans, trois zooms, trois focus, comme vous voulez, sur trois réalisateurs, Hayao Miyazaki, Michel Hazanavicius et un troisième que vous connaissez peut-être pas, je vous réserve la surprise. Alors nous commençons par Hayao Miyazaki, que vous connaissez tous, le génie de l'animation, et passe son film « Le garçon et le héron », une merveille d'animation, et je vous propose qu'on écoute la bande-annonce.
Maito.
Maman.
Sauve-moi.
Maman ! J'arrive !
Mon petit Maito, maintenant c'est moi qui vais être ta maman.
Il se passe parfois des choses étranges dans notre manoir.
Maito, sauve-moi !
Il y a eu beaucoup de gens blessés et même des morts.
Oiseau stupide. Je t'ordonne de le guider dans notre monde.
Mais toi, d'où tu viens?
Cette mer, ici-bas, est maudite.
Restez vigilants. Et unissez vos forces.
Maito! Maito!
Maito, je suis à la recherche de mon successeur.
C'est toi? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Sauve-toi, Maito!
Dans mon monde, il reste tant de choses à faire.
Maman!
Maito, accepterais-tu de continuer mon œuvre?
En écho avec Le garçon et le héros de Hayao Miyazaki, je vous propose aussi d'aller voir le film de, j'espère que je le prononce bien, K.R. Anakawa. C'est un film un peu de coulisses. Hein. Miyazaki a ouvert les portes du studio Ghibli et dévoile les coulisses de la création, donc du garçon et le héron. Cela lui a demandé 9 ans de travail. C'est une véritable plongée dans l'univers, l'intimité du genre de l'animation. Toujours dans l'animation, mais une autre forme, une autre époque, la sortie, le 21 novembre, donc aujourd'hui, du film d'animation de Michel Hazanavicius, La plus précieuse des marchandises. Nous avions eu la chance de le rencontrer lors du festival Une salle sous les étoiles de juillet 2024 à l'Université Vauban. Vous pouvez donc réécouter sur notre site son interview lors du direct d'une heure avec Bérénice Béjot, tous les deux étant le parrain et la marraine de cette quatrième édition d'Une salle sous les étoiles. Au sémaphore, il avait présenté La plus précieuse des marchandises en avant-première et nous étions tous tombés sous le charme et le message de ce film qui porte le même titre que le conte de Jean-Claude Grumbert, La plus précieuse des marchandises. Nous écoutons la bande-annonce.
Il était une fois, dans un grand bois, un pauvre bûcheron et une pauvre bûcheronne. Le froid, la faim, la misère leur rendaient la vie bien difficile. Et puis, un jour...
Ne sais-tu pas à quelle espèce il appartient ? C'est un sans-cœur ! À mort, les sans-cœurs !
Les sans-cœurs ont un cœur.
Alors, la bande-annonce évoque certainement ce climat poétique sur un sujet rude, un sujet ardu, mais Michel Hazanavicius a longuement dit, en présentant au sémaphore, que ce n'était pas un film sur la Shoah, ce n'était pas un film sur la déportation. D'ailleurs, on aperçoit à peine la déportation dans le film. Il y a un seul plan, on voit les pyjamas rayés des déportés, et bien sûr, le début du film, qui sont les trains, les convois qui allaient vers les camps d'extermination. Le contexte est plutôt un contexte actuel d'antisémitisme, mais Michel Hazanavicius nous avait bien dit que ce film n'était pas un message contre l'antisémitisme, même si le contexte actuel, je le répète, peut porter à le croire. Michel Hazanavicius a toujours dessiné et il ne s'est dessiné, il le dit lui-même, que les personnages. Donc, il a dessiné lui-même les personnages et il était très bien secondé par son équipe et avec la musique d'Alexandre Desplat qui donne toute une ambiance donc, à ce film. Alors, l'histoire, je pense que vous la connaissez. C'est la même que le conte de Jean-Claude Grumbert. Un conte, ça veut bien dire que cela est vraiment un conte. Ça a bien sûr une valeur historique. Mais ça a une valeur surtout sur les valeurs, l'éthique, la morale, c'est-à-dire que dans les circonstances les plus difficiles, dans l'horreur la plus terrible, il y a toujours des personnages qui se laissent envahir par l'amour. Et ce film est, comme le dit Michel Hazanavicius, un message d'amour. Alors, vous connaissez certainement cette histoire de cette bûcheronne qui vit très simplement, qui va ramasser du bois pour le vendre, qui voit brusquement tomber d'un train un paquet. Elle va vers ce paquet et c'est un enfant qu'elle sauve. Bien sûr, le mari ne veut pas. C'est obligatoirement un enfant de juif. Et peu à peu, dans le film, cet homme se laisse attendrir. Et c'est magnifique. C'est vraiment un message d'espoir. C'est un message poétique sur un film qu'il faut absolument voir. La pulsion de vie, la valeur universelle de l'amour.
À sa première fuite, le marron sera marqué de la fleur de lys. S'il récidive, il se fera couper les oreilles et les jarrets. Si c'est rondi, il aura la troisième règle.
N'y a-t-il l'audaubi ? Dan bi mori leray
C'est la première fois que ta fille s'enfuit. Tu sais où elle va?
Restez-y!
Hamgaman. Hamgaman Magan.
Je cherche ma fille.
Alors sur Radio Alliance Plus, nous venons de terminer plutôt mon compte-rendu sur le film de Michel Hazanavicius, La plus précieuse des marchandises. Et vous venez d'écouter la bande-annonce d'un autre film, également de 2024, Ni maître ni chaîne, qui est passé au sémaphore et que malheureusement j'avais raté, j'avais oublié ou je n'avais pas eu temps. Donc j'ai profité d'une séance de rattrapage à l'Utopia d'Avignon, samedi 16 novembre, pour le voir, ayant lu un article passionnant de Pierre-Yves Boquet, directeur de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. J'ai eu très envie de vous en faire un compte-rendu, et c'est pour cela que je vous ai fait écouter la bande-annonce « Ni maître ni chaîne » de Simon Moutaïrou. Alors le film « Ni maître ni chaîne », d'abord l'histoire. En 1759, sur l'île Maurice, alors colonie française, l'île de France, on est dans la plantation de canne à sucre d'Eugène Lancenet, joué par Benoît Maginel. Et on fait connaissance avec deux personnages principaux, joués par le Sénégalais Ibrahima Mbaye, qui est le lettré Massemba, mais appelé par les Blancs Cicéron, et sa fille, jouée par Anna Diakéré Tiyomdoun, excusez-moi pour la prononciation, qui joue l'esclave Mati, appelé par les Blancs Colette. Leur première originalité de ce film, ces deux héros, les deux héros sont noirs, parlent en wolof et ils connaissent le français, ils parlent entre eux en français. Le père apprend à sa fille à lire et à écrire en français et lui promet une belle vie de liberté. Mati rêve cependant de s'enfuir et son père, et elle le fait en évitant d'être violée par le maître, et son père, qui est accusé d'être le suppôt des Blancs, hein, d'avoir collaboré avec les Blancs, part à sa recherche après un terrible châtiment et une punition d'emprisonnement. À ce moment, la terrible chasseuse d'esclaves, Madame La Victoire, jouée par Camille Cotin, va à leur recherche avec ses deux fils et le fils du planteur. Complexité, justement, de l'attitude des Blancs. Ils ne sont pas les vedettes, mais ils ont des positions très différentes. Et nous en reparlerons. Le poids de la royauté, le poids de l'Église ou le poids de l'humanisme. Le vrai sujet du film, c'est cela. C'est les esclaves qui s'enfuient. C'est ce qu'on appelle les marrons. Le phénomène du marronnage et cette volonté qu'ont ces esclaves maltraités, humiliés, cette volonté malgré tous les obstacles et l'esclavage de garder leur dignité, de faire preuve de valeur et de résistance à l'oppression. L'article dont je vous parlais commence par quatre fois le mot « enfin ». Je ne vais pas vous dire les quatre « enfin » puisque l'article fait, je crois, une quarantaine de pages et je vais tenter de vous le résumer. Tant il m'a interpellée en ayant plusieurs niveaux de lecture. Alors, le marronnage permet aussi de parler de la violence du Code noir. Le Code noir avait été dicté par Louis XIV en 1685 pour les Caraïbes. On connaît surtout l'esclavage des Caraïbes. Mais pour l'océan Indien, pour les colonies de l'océan Indien, il a été remanié en 1723. Et quoi qu'on en pense, quoi ce que disent certains critiques ou certains pseudo-historiens, il n'était pas du tout pour minimiser les châtiments, mais au contraire pour accroître les châtiments. Car dans l'océan Indien, la volonté de fuite des esclaves, donc les marrons, était très importante. Et l'article 38 sur les châtiments est très violent. Première fuite, une oreille coupée. Deuxième fuite, les jarrets coupés. Troisième fuite, la mort. Cela donne lieu à cette scène particulièrement dramatique au début du film pour les marrons récidivistes. Autre angle de lecture, savoir que ce n'est que le second film français en 20 ans qui a été réalisé sur l'esclavage colonial français. Alors que, dans cette période, dans les 20 ans, la France a sorti 4161 films. Je vous laisse faire le pourcentage. À part en 2011, Case départ, que personnellement je n'ai pas vu, la comédie de Fabrice Eboué et Thomas Ningal, qui avait fait 1,8 million d'entrées, mais c'était sur un mode comique, une comédie, et les acteurs avaient attiré beaucoup de monde. C'est un peu brutal. C'était vraiment sur le registre comique. Alors qu'à l'époque, on insistait beaucoup sur l'esclavage aux États-Unis. À la même époque, vous avez certainement vu, en 2012, Django Unchained de Tarantino, Lincoln, en 2012 aussi, de Steven Spielberg, 12 Years a Slave de Steve McQueen, en 2013, donc des réalisateurs et pas les moindres, mais c'était surtout situé sur l'esclavage aux Amériques. Alors, en France, pourquoi ce silence? Pourquoi ni maître ni chaîne est à peine passé à la télévision, est à peine passé sur la chaîne publique, a donné lieu qu'à 14 minutes sur l'émission C'est à vous, a été complètement blacklisté des journaux de droite, n'a pas été cité dans Le Masque et la Plume, ou a été littéralement, entre guillemets, descendu par d'autres critiques, comme si ce film dérangeait, comme s'il ne fallait pas en parler. Et cela rappelle, bien sûr, les terribles sujets tabous de l'histoire de France, comme par exemple la Commune de Paris. Il a fallu attendre plus d'une centaine d'années pour qu'on parle de la Commune de Paris. Donc pourquoi ce silence médiatique? Pourquoi ce film très original n'a pas eu de couverture médiatique, a eu un budget médiocre, mais un bon budget, a été tourné dans des décors naturels avec deux vedettes qu'on appelle bankable, hein, Benoît Magimel et Camille Cotin, qui auraient pu attirer et qui attirent certainement un public. Alors pourquoi ce film original, ce film nouveau depuis 20 ans, n'a pas été signalé et n'a pas fait, je n'ai pas réussi à trouver à la date d'aujourd'hui le nombre d'entrées, mais ça doit être assez faible. Et je pense que Utopia à Avignon a fait une séance de rattrapage. Je pense que le Sémaphore pourrait également faire une séance de rattrapage. On était une cinquantaine dans Utopia un samedi après-midi. Alors, est-ce que ce film, en fait, est trop original? Parce qu'il faut l'ignorer, parce qu'on ne veut pas soulever certains points de mémoire, parce qu'il est plus facile de critiquer l'esclavage aux États-Unis ou dans les Caraïbes, que de critiquer l'esclavage dans les colonies françaises. Je vous rappelle tout de même que l'esclavage en deux siècles pour la France, sur les trois continents, a fait 4 millions de victimes en deux siècles, hein, de 1625 à 1848. Et que les films que je vous ai cités tout à l'heure concernaient toujours, en fait, les États-Unis. Donc on en revient toujours à ces clichés, à ces idées. Il est plus facile de critiquer les autres que soi-même, comme si on avait honte vraiment de cette histoire de la présence française dans les colonies. Alors je vous disais original parce que, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, les deux personnages centraux sont des Noirs. Les Blancs ont une importance, mais ce ne sont pas les vedettes. On n'est pas en train de réfléchir sur l'état d'âme des Blancs. Il y a un personnage de gouverneur particulièrement violent et il vient pour faire appliquer le code noir, c'est-à-dire ce n'est pas du tout là non plus une amélioration du sort, c'est au contraire une aggravation vraiment des châtiments, puisque les marrons étaient de plus en plus nombreux et qu'il y a dans le sud-ouest de l'île Maurice, enfin à l'époque l'île de France, une communauté. Est-elle une légende? Est-elle réelle? Le fameux Phi Boumi Diam Idiog, Mati, Colette, au début, rêve d'aller dans cette communauté. Et la chasseuse de marrons veut éviter qu'elle arrive donc dans cette communauté. Nous verrons à la fin du film qu'elle existe vraiment. Donc, en Wolof, les deux personnages centraux sont des Noirs, et des Noirs qui ont des états d'âme, qui ont des valeurs, qui ont une éthique, qui ont des sentiments. Ce ne sont pas des bêtes, comme on voulait souvent les réduire cela. La scène avec le gouverneur est particulièrement forte, car Cicéron, Massamba, qui parle très bien français, doit répondre à la volonté du gouverneur en disant « Les Noirs et les bêtes ont été créés au cinquième jour par Dieu, les Blancs ont été créés le sixième jour, donc il est tout à fait naturel que les Noirs et les Bêtes servent les Blancs. » Les Blancs d'ailleurs qui ont une diversité de positionnement vis-à-vis de l'esclavage. Alors l'esclavage entretenu et encouragé par la couronne, on redit bien que les planteurs n'ont que la concession des terres. Hein, c'est-à-dire que le roi de France, représenté par le gouverneur, peut à tout moment leur retirer cette concession. Donc par la couronne, et par l'Église, bien évidemment, avec cette volonté de conversion. Diversité des positionnements, on les voit très bien avec les deux fils de Madame la Victoire, la chasseuse d'esclaves, et par le fils du planteur. Le fils du planteur a une idée humaniste, c'est-à-dire il considère les Noirs comme des êtres humains. Les deux fils de la chasseuse sont totalement convaincus, enfin ils ne sont même pas convaincus, pour eux il faut les détruire, il faut les tuer. Mais l'un des deux est épargné par Massamba et à ce moment-là il prend conscience que c'est un être humain qu'il a pensé, qu'il a réfléchi et il stoppe la chasse. Film original aussi parce qu'il parle aux afro-descendants actuels qui lutte et qui lutte toujours pour l'égalité des droits. Donc, c'est un film d'époque, c'est un film qui se situe en 1759, mais c'est aussi un film de notre époque, c'est un film de mémoire et c'est un film pour peut-être donner de la dignité aux descendants donc des Noirs. Alors, je fais un parallèle, enfin, c'est l'auteur de l'article qui fait un parallèle qui m'a semblé tout à fait judicieux. Comme il y a des sujets tabous, comme la mémoire est complètement ignorée dans certains livres historiques, je rappelle que le film de Stanley Kubrick de 1957, Les Sentiers de la Gloire, a fait connaître vraiment la guerre de 14-18. À partir de ce moment-là, il y a eu énormément de recherches sur la guerre de 14-18, qu'on appelait la Grande Guerre, qui est loin de grande. Parallèle aussi avec le film Indigène que vous avez certainement vu de Rachid Bouchareb, 2006. Là aussi, un acteur bankable, hein, ou trois acteurs bankable. Indigène a fait énormément d'entrées et a eu un impact dans le déblocage des pensions pour les invalides de guerre algériens réalisé par le président Chirac. On pourrait finir ce parallèle avec en 2024 l'histoire de Souleymane, qui parle de la précarité des immigrés clandestins. Ah donc voilà pourquoi on pourrait se dire ce film est tellement original, ce film remet tellement en cause la bonne conscience blanche, la bonne conscience française, que on ne lui fait pas la couverture médiatique qu'il faut, hein, comme s'il gênait encore. Alors il y a peut-être d'autres explications. C'est que en France ou dans les colonies françaises, il n'y a pas eu dans la littérature de grands livres qui ont fait connaître la condition des esclaves. Il n'y a aucun livre sur le marronnage, Peut-être parce que justement, tous ces anciens esclaves étaient illettrés, hein, n'avaient pas appris, bien sûr, ni lire et à écrire. Mais en dehors d'aucun témoignage du marronnage, peut-être un peu l'archéologie qui peut retrouver des traces de ces communautés, il n'y a pas eu donc, pour la France, l'équivalent de la case de l'oncle Tom, de Harriet Baker Stowe, qui ne connaît pas la case de l'oncle Tom, l'équivalent de Racine d'Alex Halley, hein, qui a donné le film Roots, là aussi je ne vais pas vous donner le nombre d'entrées, mais de grands succès, ou Beloved de Toni Morrison. Donc tous les films qui ont été réalisés sont des films qui traitent toujours des États-Unis, hein, on parle d'autocentrisme américain, et ne parle jamais des grandes révoltes, que ce soit la révolte de Saint-Domingue en 1791, la révolte d'Haïti en 1804, que dans ces films ou dans la littérature, on minimise les grandes figures intellectuelles noires, d'Aimé Césaire à Maryse Condé, comme si les Noirs, et d'autant plus les Marrons, n'avaient pas de valeur intellectuelle. Alors que nous avons dans ce film, justement, ni maître ni chaîne, des êtres en pleine possession de leur destin, jusqu'au bout, jusqu'à la scène finale que je vous laisserai découvrir si vous décidez d'aller voir ce film. Parce que c'est un film qu'on décide d'aller voir pour réfléchir, pour lever des tabous, pour casser des clichés, pour casser vraiment l'ignorance. Hein, l'ignorance que l'on ignore, je trouve que c'est une très belle formule. Donc en conclusion de ce clap cinéma un peu spécial, puisqu'en première partie je vous ai cité les films que vous pouvez voir dans la première quinzaine de décembre, enfin à partir du 21 novembre jusqu'à début décembre, nous nous retrouverons pour un autre clap cinéma avec Jean-Sylvain cette fois-ci. Et je voudrais conclure, le cinéma est un moyen de connaissance contre les stéréotypes, les préjugés, les clichés et un outil essentiel pour la mémoire nationale. Merci à vous et à bientôt.